Pendant que notre frère Eric Cazès révèle le harnachement du bon prédicateur, je profite de l'introduire. Au fait, de quoi vas-tu nous parler ce matin ?
De l'ascension.
Eh bien, nous y sommes.
Ça semble être un thème d'actualité.
On pourrait le dire comme ça. Eh bien, nous allons prier pour toi, cher Eric, et nous invoquons ta bénédiction, Seigneur, sur non seulement ce que tu as mis à cœur à Eric de nous transmettre, mais également la façon dont nous le recevrons. Ce ne sont pas des paroles sacrées, ce ne sont pas des paroles saintes, ce sont des paroles qui sortent d'un humain pécheur comme nous et moi, mais que tu as inspiré et dont tu t'es fait le porte-parole ce matin. Veuille être en bénédiction pour lui et pour nous. Amen.
Amen. Voilà, bonjour à chacune, bonjour à chacun. C'est vrai que lorsqu'on m'a demandé de prêcher aujourd'hui, on m'a demandé quel thème je voulais prendre, je ne me suis pas trop fatigué à chercher. Je me suis dit, bien, puisque nous sommes dans le week-end de l'ascension, je vais parler de l'ascension. Mais j'ai compliqué un petit peu la chose en mettant non seulement l'ascension, mais l'ascension, un homme, un grand prêtre, un roi. Alors je ne sais pas jusqu'où nous pourrons aller ce matin, on va cheminer un petit bout et puis je m'arrêterai quand je verrai que le temps est écoulé. J'aimerais rappeler en quelques mots ce qu'est l'ascension. Hein, on va essayer de faire. Voilà, ça devrait aller. Ça devrait venir. Voilà. Alors, j'aimerais juste rappeler que l'ascension n'est pas notre Seigneur qui aurait gravi une montagne. Il n'est pas monté sur l'Everest, ni sur le K2. Il n'a pas non plus traversé les couches atmosphériques, comme on pourrait le croire, ou comme parfois on pourrait l'imaginer lorsqu'on voit des vitraux ou des peintures. Non, le Seigneur, lorsqu'il s'élève dans les airs, il y a ce qu'on pourrait appeler un changement de niveau de réalité. Il quitte la réalité terrestre pour aller dans un niveau de réalité nouveau, nouveau pour nous, mais pas nouveau pour lui. Ce niveau de réalité, c'est la réalité de son Père, ce qui est incréé. 40 jours après Pâques, Jésus est retourné auprès de son Père. Il a été enlevé au ciel sous les yeux de ses disciples qui étaient réunis au mont des Oliviers. Et voilà le texte qui nous en parle dans Acte 1, les versets 8 à 11, qui est aussi un texte qui nous parle de la Pentecôte. Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde. Après ces mots, Jésus se leva vers le ciel pendant que tous le regardaient. Puis un nuage, le nuage ici n'est pas un nuage atmosphérique, mais dans la Bible, lorsqu'il est question de nuage, de nuée, il s'agit de la présence de Dieu, c'est comme si Dieu venait dans la nuée chercher son Fils. Mais un nuage le cacha à leurs yeux. Ils avaient encore les regards fixés vers le ciel où Jésus s'est levé. Quand deux hommes habillés en blanc se trouvèrent tout à coup près d'eux et leur dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu y partir. » Pour certains théologiens, pour certaines personnes, l'ascension, c'est une fête mineure parmi toutes les fêtes chrétiennes. D'ailleurs, vous avez remarqué que nous ne faisons pas grand-chose comme festivité. À Noël, on fait la fête. À l'ascension, on ne fait pas grand-chose, comme si nous n'étions pas concernés par cette fête. À Noël, C'est Dieu qui vient parmi nous. Hein, il vient parmi nous. C'est nous qui sommes concernés par ce Dieu qui vient en Jésus-Christ. À Vendredi Saint, c'est Jésus qui meurt pour nous. À Pâques, c'est Jésus qui ressuscite. Il ressuscite des morts. Et c'est la victoire de Jésus sur la mort, sur notre mort de nouveau. À Pentecôte, c'est nous qui recevons le Saint-Esprit. Et à l'Ascension, Jésus monte au ciel et nous. Bien pour certains, Jésus monte au ciel et c'est son ministère à lui. Et nous ne sommes pas concernés par cela. La question qu'on pourrait se poser, est-ce qu'il y a un lien entre le ministère de Jésus au ciel et nous ? Et là, j'aimerais faire quelques remarques sur l'ascension. Lorsque Jésus part à la rencontre de son Père, cela veut dire qu'il ne sera plus présent sur la terre. Il quitte ce monde visible, comme je disais avant, pour aller dans le monde invisible, dans le monde incréé de son Père. Il avait dit à ses disciples, « Il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. » Et s'il n'était pas parti, eh bien Jésus serait une espèce de Spider-Man sur cette terre. Et puis on serait sans doute là en train de dire, « Seigneur, j'ai un problème, interviens !» Et puis il arriverait, il réglerait notre problème, et puis il repartirait ailleurs pour régler le problème de quelqu'un d'autre. Vous voyez, ça serait un petit peu de la magie, ça serait un peu surprenant. Mais ce qu'on pourrait dire, c'est que l'humain, l'être humain, ne grandirait pas en maturité. Il serait toujours à faire des appels comme cela, et Jésus, comme Spider-Man, viendrait à l'aide de ceux qu'il appelle. L'ascension, c'est un homme qui est auprès de Dieu. C'est l'inverse de Noël. À Noël, c'est Dieu qui vient parmi les hommes. À l'ascension, c'est un homme qui va auprès de Dieu. Et cet homme va avoir différentes fonctions. La fonction de grand prêtre et d'avocat, on l'a entendu tout à l'heure dans une prière. Cette fonction de grand prêtre et d'avocat pour nous. Pourquoi grand prêtre ? Parce qu'il entre dans le vrai temple, dans le temple de Dieu, dans un temple qui n'est pas fait de pierre, qui n'est pas fait par des humains. Ce temple qui avait été montré à Moïse comme modèle pour faire le tabernacle, mais ce temple qui est aussi notre espérance, parce que nous savons que c'est là qu'un jour nous rencontrerons notre Dieu. Et il a aussi cette fonction de roi, non seulement grand prêtre et avocat, mais roi, parce qu'il est mis à la droite de Dieu le Père et qu'il reçoit de lui tout pouvoir. Tout pouvoir lui a été donné. Mais pendant que Jésus va vivre cela, les disciples sont seuls sur la terre. Ils ne voient plus Jésus. Avant, Jésus était en première ligne avec eux. C'est Jésus qui agissait, c'est Jésus qui prêchait, c'est Jésus qui guérissait, c'est Jésus qui ramassait les coups. Maintenant, c'est les disciples qui sont, eux, en première ligne. C'est eux qui vont devoir agir. C'est eux qui vont recevoir les coups. Jésus assumait avant, maintenant c'est aux disciples à assumer ce rôle-là. Ils ne marcheront plus dorénavant par la vue, puisqu'avant ils avaient Jésus devant eux ou avec eux. Maintenant, ils vont marcher par la foi. Et il ne s'agit pas ici de la foi confiance. Souvent la Bible emploie le mot « foi » dans le sens de confiance. Mais ici, on pourrait dire ils vont marcher dans la foi, comme le dit l'Épître aux Hébreux, la foi qui est un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. La foi devient un moyen de connaître des choses qu'on ne voit pas. Moi, j'ai de la difficulté avec ça. Il y a des gens qui disent qu'ils voient des choses qu'on ne voit pas. Moi, j'ai un peu de peine à ce niveau-là. Et je me suis dit, mais la Bible nous dit que c'est un moyen de connaître, pas de voir forcément des réalités qu'on ne voit pas, mais de connaître. Et cela ressemble sans doute un phénomène physique que l'on connaît tous, pour l'avoir expérimenté soit positivement, soit négativement, c'est l'électricité. Ben, l'électricité, on ne voit pas l'électricité, mais on en ressent les effets si on met ses doigts dans une prise, ou si on met une ampoule, ou si on met une machine, et on voit que l'électricité existe, que ça a de l'effet, que ça agit. Alors les disciples vont devoir commencer de vivre avec cette foi, cette connaissance du monde qu'on ne voit pas. L'ascension nous rappelle que l'œuvre visible de Jésus a disparu. La crèche n'existe plus. La croix n'existe plus. C'est choquant. Le ressuscité n'est plus là. C'est le vide. Nous n'avons plus rien à adorer, plus rien de sacré. Amen. Enfin, il n'y a plus rien de sacré sur cette terre à part la vie humaine. Parce que nous n'adorons pas une croix. Nous n'adorons pas un mort, mais un crucifié qui est ressuscité et qui est élevé à la droite de Dieu. Nous adorons le vivant. Et ce vivant, en réponse à notre adoration, nous libère pour qu'à notre tour, nous puissions vivre. Pour qu'à notre tour, nous vivions. Dorénavant, l'œuvre de Jésus-Christ sera concentrée dans le temple céleste. Et ce monde invisible va agir sur le monde visible. Et j'aimerais vous donner maintenant trois exemples où le monde invisible agit dans le monde visible. Ce seront des échantillons. C'est une amorce. C'est un tout petit bout de ces clés que je vais vous donner. Ce ne seront pas les clés en entier, c'est un petit bout. Pour cela, nous allons lire ce texte de l'Épître aux Hébreux et aborder un homme auprès de Dieu. Nous n'avons pas en effet un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Il a été éprouvé en tout point à notre ressemblance, mais sans péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être aidé en temps voulu. Nous avons un grand prêtre au-dessus de nous, et parfois quand nous prions, on prie ce Seigneur pour qu'il fasse beaucoup de choses. Mais ce texte nous dit que ce grand prêtre est un humain, qui connaît l'humain. Il connaît ses joies, ses souffrances. Il en est complètement imprégné. Il a été éprouvé en tout point et il peut nous comprendre. J'aimerais vous donner une illustration de ce fait-là, que Jésus, dans le ciel, est un humain qui connaît notre humanité, qui en est imprégné. C'est une connaissance qui vient me trouver et puis qui me dit « J'ai une peur bleue de la mort. J'ai même des angoisses par rapport à la mort. » Il me dit « Mais j'ai ces choses-là et je suis chrétien. Puis je ne comprends pas pourquoi je vivais cela, cette peur et ces angoisses par rapport à la mort. » Je n'ai pas pu lui donner trop de réponses parce que je ne suis pas loin de lui dans ce genre de choses. Mais il a continué et me dit, un jour je me suis dit, je vais demander à Jésus qu'il enlève cette peur et cette angoisse. Alors il s'est mis à prier pendant pas mal de temps. Jésus, enlève cette peur et cette angoisse qui sont là et qui m'empêchent de vivre comme il faut. Et rien ne s'est passé. Alors il a entendu des messages, il a entendu des gens prêcher, puis des gens disaient « Mais il ne faut pas seulement demander à Jésus d'enlever, il faut chasser au nom de Jésus ce qui nous chicane. Alors c'est ce qu'il a fait. Il a chassé au nom de Jésus sa peur. Puis après il s'est dit, mais c'est peut-être même un esprit de peur qui est en moi. Il a chassé l'esprit de peur. Ça allait un petit peu mieux, mais ça n'allait pas très bien, toujours, m'a-t-il dit. Et s'est demandé, mais qu'est-ce qu'il faut faire, Seigneur ? Il cherchait un petit peu d'aide et tout ça. Puis un jour, il a passé du temps devant son Seigneur. Et puis, d'un coup, il y a comme quelque chose qui s'est passé en lui. Il a imaginé Jésus, tout d'un coup, à Gethsémané. Il dit, mais Seigneur, en fait, je te vois là-haut comme quelqu'un qui peut intervenir, etc. Mais en fait, toi, quand tu étais sur cette terre, tu as eu peur de la mort. Tu as eu des angoisses face à la mort. Ah ben, tout d'un coup, ça devenait clair pour lui. Ce sacrificateur qui était là, ce grand sacrificateur, ce grand prêtre qui pensait qu'il allait intervenir dans sa vie, eh bien, tout d'un coup, il réalisait que c'était un homme qui avait vécu aussi cela. Et il m'a dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a comme eu une déconnexion en moi. C'est comme si quelque chose était parti de moi. Je vais mieux maintenant. Alors, je ne sais pas très bien où il en est aujourd'hui, avec sa peur de la mort. Mais quand il a réalisé que ce Seigneur-là avait vécu son humanité, ses difficultés humaines, quand il a été rencontré dans ce qu'il vivait, il y a quelque chose qui s'est passé en lui. Et puis, il a été dégagé, je ne sais pas jusqu'où, de ce problème-là. C'est vrai que quand on s'approche de ce Seigneur, il y a plusieurs voies. Demander à Jésus d'enlever une difficulté, c'est une bonne voie. Demander à la difficulté de s'en aller au nom de Jésus, c'est aussi possible. Demander à l'esprit qui anime peut-être cette difficulté, on peut peut-être aussi le faire. Mais s'approcher de Jésus et découvrir que lui aussi a souffert ce que nous souffrons ou a vécu ce que nous vivons, alors ça peut nous aider aussi. Et il y a sans doute encore d'autres voies à explorer. Jésus n'a pas vécu notre vie, mais sa vie. Et dans sa vie, il a vécu une quantité d'événements. Et je crois que dans tout ce qu'il a vécu, il a vécu à peu près tout ce que les humains peuvent avoir comme difficulté, comme sentiment, comme émotion. Il a connu la faim, la fatigue, la tentation, l'opposition, l'incompréhension, le rejet, la trahison, l'abandon, la solitude, la souffrance physique, la souffrance psychique, les angoisses, la mort, etc., etc. Donc il peut nous comprendre, il peut compatir à nos souffrances, à notre vécu humain. Nous pouvons nous approcher du trône de la grâce pour être aidés au temps convenable. Mais Jésus est aussi ce grand prêtre, cet avocat que nous avons auprès du Père. Et je vous propose la lecture de Hébreux 9, 13 à 14. Mais Christ est survenu grand prêtre des biens à venir. C'est par une tente plus grande et plus parfaite, qui n'est pas œuvre des mains, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création-ci, et par le sang non pas des boucs et des veaux, mais par son propre sang qu'il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire et qu'il a obtenu une libération définitive. Car si le sang de boucs et de taureaux et si la cendre de jeunisse répandue sur les êtres souillés les sanctifie en purifiant leur corps, combien plus le sang du Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans tache, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant ? j'ai mis en gras, purifiera-t-il notre conscience ? Et c'est sur ce point-là que j'aimerais m'arrêter quelques instants. Notre conscience, vous savez, c'est ce qui nous fait dire « j'ai mal fait, j'ai bien fait, j'aurais pas dû, comment réparer ?» C'est cela, notre conscience. Je vais vous donner quelques éléments sur la conscience, mais vraiment quelques bribes. La conscience, on ne la trouve pas dans l'Ancien Testament, ou très très peu. Surprenant, hein ? Pourquoi ? Parce que le juif n'est pas autonome. Ce qui décide du bien et du mal n'est pas sa conscience, mais c'est la loi. Donc l'Ancien Testament n'a pas ce type d'expression. Le Nouveau Testament va nous donner de la conscience, quelque chose d'important. C'est un élément important de la personne, mais ce n'est pas notre juge. La conscience n'est pas notre juge. Notre juge, c'est le Seigneur. C'est ce que disait l'apôtre Paul. La conscience, au sens moderne, a beaucoup de dimensions. Je donnerai juste un ou deux éléments. La conscience, c'est la perception de soi. C'est ce qui nous permet de dire « je suis ». C'est un moyen actuel de vérifier si quelqu'un a conscience de soi ou pas. Se regarder dans un miroir, ça permet de savoir si la personne, ici, le jeune bonhomme, reconnaît que c'est lui ou pense que c'est qu'un autre bonhomme qui le regarde. Est-ce qu'il est conscient de lui ou pas ? C'est ce qui permet de dire « je suis ». Ouf, ça, c'est pas très bien. Hein ? C'est la conscience, c'est ce qui nous poursuit et qui regarde ce que nous faisons, l'œil de Caïn, si ce qu'on fait est juste ou n'est pas juste. Mais voilà, l'un des problèmes de la conscience, c'est la culpabilité. Ici, je parle de la vraie culpabilité. Et la culpabilité va nous faire des émotions, va nous donner des émotions qui peuvent être terribles, qui peuvent être désagréables, qui peuvent amener angoisse, dépression. Certains disent même que la culpabilité est souvent à la base de maladies psychiques ou psychiatriques. Alors je ne sais pas jusqu'à quel point on peut l'affirmer, mais voilà ce que certains disent. J'ai fait un rêve, alors je ne sais pas si c'était inspiré par l'esprit ou bien par le thème, mais peu importe, je vous le donne comme cela, parce que je me suis dit, tiens, je n'ai pas la nuit passée, hein, ça remonte à déjà pas mal de temps. Je voyais des grands, j'en fais jamais, hein, je reçois rarement des choses du monde invisible. Je voyais des grands silos, et puis beaucoup d'argent qui venait dans ces silos. Et c'est de l'argent qui venait du monde entier. Puis cet argent, je pense, représentait bien sûr de l'argent, mais peut-être aussi les efforts humains. Et puis ces gens envoyaient cet argent dans ces silos, c'était là pour nettoyer leur conscience. Et puis j'entendais des gens qui disaient « Je mets beaucoup d'argent, je fournis beaucoup d'efforts, mais ça ne nettoie pas ma conscience. » Et puis d'autres qui disaient « Je mets beaucoup d'argent, je fais beaucoup d'efforts, ça ne nettoie pas ma confiance, par conséquent je vais continuer de vivre sans rien changer à ma vie. » Je trouvais intéressant cette deuxième partie parce que je n'y avais jamais pensé avant. Puis, on le sait, le christianisme, en tout cas ça se dit, est une religion qui culpabilise. C'est ce qu'on nous dit souvent, et pourtant, la Bible nous dit l'inverse. Elle nous dit que c'est une religion, que c'est la foi en Jésus qui nous purifie, qui purifie la conscience. Et j'aimerais ici vous donner un élément, la manière dont on peut imaginer cette purification. Je vais aussi vous la donner sous forme d'une petite histoire, d'un témoignage, C'est un chrétien qui est venu me trouver. Son épouse n'est pas vraiment engagée dans la foi. Et puis, il a vécu quelque chose d'un peu surprenant pour lui. Enfin, il m'a raconté. Il y avait eu un vol dans la voiture de sa femme. Et puis, il a poussé sa femme à non seulement déclarer, bien sûr, le vol à l'assurance, mais quand il a fallu mettre les chiffres, à les augmenter, il a poussé sa femme à lui dire « Tu sais, il faut augmenter la facture parce que les assurances nous roulent toujours. » Puis la dernière fois qu'on s'est fait voler, on a perdu des plumes. Donc, c'est le moment qu'il nous rembourse. Ça allait lui rapporter des petites sommes d'argent. Hein, c'était quelques centaines, 100 francs ou 200 francs. Puis voilà, puis sa femme a fait ça. Donc ça paraissait banal et puis la vie a continué. Puis un jour, il se met devant le Seigneur, il prie, il lit sa Bible, puis il prie. Puis tout d'un coup, pof, à son esprit lui revient cette histoire. Il dit, tiens, mais qu'est-ce que c'est ? Attends, Seigneur, mais... Ok, ben j'ai juste demandé à ma femme qu'elle augmente, c'est pas grand-chose. Et puis... Il dit, mais Seigneur, moi j'ai fait faux. Je te demande pardon. Ah voilà, il a demandé pardon au Seigneur pour ce qu'il avait fait. Puis quelques jours après, il se replace devant le Seigneur, et puis il prie, puis tout d'un coup, paf ! De nouveau, cette pensée qui revient, j'ai fait quelque chose qui ne semblait pas très juste. Mais Seigneur, je te demande pardon. Écoute, l'argent que je vais recevoir en plus, enfin que ma femme va recevoir en plus, moi je vais le mettre pour la mission. Alors il est parti dans cette direction, puis il s'est dit, je vais attendre quelques jours, puis je mettrai cet argent. Et puis il passe du temps avec le Seigneur les jours qui suivent, puis paf, la pensée revient, puis comme ça a continué, et chaque fois il trouvait un autre moyen s'en sortir, c'était je vais mettre l'argent pour la mission, après c'était finalement je vais passer plus de temps avec toi Seigneur, et puis pour finir il s'est mis à raisonner avec le Seigneur, lui dire mais écoute Seigneur, enfin tout le monde fait ça, et puis l'assurance il ne nous avait pas remboursé tout, enfin vous voyez tous les raisonnements qu'on peut se faire, et puis un jour il s'est dit non, ça joue pas cette histoire, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Alors, il se place devant le Seigneur et quand la pensée revient, au lieu de trouver d'argumentation, il dit Seigneur, alors, qu'est-ce que je fais avec ça ? Tout d'un coup, il a un éclairage. Mais tu es coupable. Non seulement tu as fait faux, mais tu es coupable. Je suis coupable. Et à partir de ce moment-là, cette espèce de culpabilité, ce qui le poursuivait, a disparu. Il a dit, je suis coupable, Seigneur, mais je ne vais plus recommencer. Je ne vais plus recommencer. Ça, c'est ce qui se passe sur la terre, dans le cœur de quelqu'un. Mais qu'est-ce qui se passe dans le ciel ? Jésus, que fait-il dans le ciel par rapport à une situation comme cela ? Il est l'avocat de ce monsieur. Et que fait-il, que dit-il au Père ? En tant qu'avocat, est-ce qu'il plaide coupable ou est-ce qu'il plaide non coupable ? Qu'est-ce que vous pensez ? Jésus dans le ciel, est-ce qu'il plaide coupable ? Il est coupable parce qu'il a péché ou est-ce qu'il plaide non coupable ? Non coupable. Eh bien, c'est bien. Donc, ça veut dire qu'il raconte des bobards. Il dit à son père quelque chose qui est faux. Il dit à son père quelque chose qui est faux. Parce que cet homme est vraiment coupable. Eh bien, moi, je crois que Jésus dit à son père, il est coupable. Mais celui qui dit à son père, il est coupable. Il n'est pas seulement l'avocat et le grand prêtre. Il est aussi l'agneau immolé. C'est cela l'important. Il ne dit pas de bobard au Père. Il dit, il est coupable et il mérite un châtiment, Père. Mais moi, j'ai pris le châtiment sur moi. J'ai pris le châtiment sur moi. Et c'est pour ça qu'il peut revêtir la justice, parce que le châtiment a été porté par moi. En fait, on pourrait dire la chose suivante. Jésus dit dans le ciel, il est coupable, et le pécheur dit, je suis coupable. Jésus dit, Père, j'ai payé pour lui, j'ai reçu le châtiment qu'il devait recevoir. Le pécheur peut dire, merci Jésus de me purifier, de me nettoyer. Jésus dit, Père, à la croix, j'étais pas seul à mourir. Il est mort avec moi, à ses principes de vie. C'est cela la vie chrétienne. À la croix, il est mort avec moi. Et le pécheur peut dire, Père, je ne veux plus recommencer et je veux suivre tes principes. Jésus est roi. Alors je vois que le temps est écoulé. Je ne vais pas vous développer ce point-là, mais je vais peut-être simplement vous proposer une petite chose. Jésus est roi, c'est la dernière partie du message. Jésus est roi, il est à la droite de Dieu. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Et moi, je vous pose la question suivante. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que je le crois? Est-ce que nous le croyons? Que Jésus est roi et que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Alors je vous propose la chose suivante. Je vous laisse lire ce dia. Et puis si vous êtes d'accord, ensuite on se lèvera tous ensemble et on le lira à haute voix. Si vous êtes d'accord avec cela, si vous êtes d'accord que Jésus-Christ est roi, il occupe la plus haute place dans le ciel. Je vous laisse le lire. Alors, si vous êtes d'accord avec ce texte, je vous propose de vous lever. Et ensemble, nous allons pas seulement le lire, mais je vous propose même de le proclamer. De le proclamer, c'est encore autre chose. C'est aller chercher un petit peu au fond de soi ce qu'il y a. Aller chercher un peu d'air, un peu d'énergie en soi pour le proclamer. On va commencer depuis « Jésus est couronné de gloire et d'honneur ». Jésus est couronné de gloire et d'honneur. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il est Seigneur. Il est assis sur le trône du Père, à la droite de Dieu. Toute autorité lui a été donnée dans le ciel et sur la terre. Il est roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen.